Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Pour ce tout dernier épisode de la saison, j'ai le plaisir de vous présenter Laura, qui vient nous parler de son parcours pour devenir maman. Laura nous raconte comment elle et Adrien ont profité de la vie à deux avant d'être prêts à devenir parents. Elle me raconte les rencontres difficiles avec sa gynéco qui lui annonce de but en blanc qu'elle ne peut rien faire pour l'aider, et aussi son cheminement pour accepter qu'un don sera le moyen auquel elle aura recours pour devenir maman. Laura veut nous sensibiliser au don d'ovocytes en France et non à l'étranger. Elle nous raconte comment son entourage a décidé de faire des dons en son nom pour l'aider, sans la prévenir. Et elle nous donne aussi des conseils pour mieux vivre nos parcours. C'est le tout dernier épisode de la saison, on se retrouve en septembre. Je suis un peu émue. Alors restez jusqu'au bout, j'ai encore plein de choses à vous dire. Allez, je vous souhaite une très belle rencontre avec Laura. Bonsoir Laura, bienvenue sur le podcast.
Bonsoir, merci. C'est gentil de me laisser la parole ce soir.
Mais avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. D'où est-ce que tu nous parles ce soir ?
Alors moi, je suis de Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, dans l'est de la France.
Ok, super. Et donc pour la petite histoire, il est très tard chez toi puisque tu me parles à plus d'une heure du matin.
Oui, voilà, exactement, avec le décalage horaire.
Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, que tu nous parles de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire quel âge t'as, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ta vie d'aujourd'hui?
Alors oui, donc moi j'ai actuellement 31 ans, ça fait 7 ans que je suis en couple avec mon conjoint, voilà, je travaille dans un... enfin je suis commerciale, voilà, depuis 2012, voilà, on vient d'en... enfin ça fait un an qu'on a emménagé dans une maison.
Super, très bien. Donc l'objectif du podcast, tu le sais, c'est de libérer la parole sur la difficulté à concevoir, à fonder une famille ou à agrandir sa famille. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quand est-ce que vous avez décidé avec ton conjoint ? Est-ce qu'on peut savoir son prénom ou ses secrets ?
Oui, non, il s'appelle Adrien.
Adrien, ok, c'est plus sympa, je trouve, de mettre un prénom sur les personnages de l'histoire. Ouais. Donc, quand est-ce qu'avec Adrien, vous avez décidé que vous étiez prêt à avoir, à fonder votre famille ?
Alors, nous, là, réellement, on a pris la décision en 2018, donc un peu moins de 2 ans à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'était en mai 2018, on finissait en fait les travaux de la maison dans laquelle on vit aujourd'hui, puis qu'on a fait construire.
Ok.
Donc, on n'était pas pressés. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on avait bien profité d'une vie de couple, on avait voyagé, la vie à deux, on voulait en profiter, c'était un peu comme ça qu'on voyait les choses, on voulait vraiment profiter à deux, finir la maison aussi, c'est-à-dire qu'on allait quand même en profiter un petit peu aussi à deux, avant de se lancer, d'avoir un enfant. Donc moi j'avais un implant contraceptif depuis longtemps. Plus de 5 ans déjà à l'époque. Donc du coup, j'ai enlevé mon implant en mai 2018. J'ai pris un rendez-vous très classique chez ma gynéco qui me suivait depuis longtemps pour enlever l'implant. On a fait même un rendez-vous, je me souviens à l'époque, on avait fait un rendez-vous pré-conception en couple.
Ok, ça consiste en quoi ?
Alors en fait, c'est la gynéco qui me suit qui fait ça. C'est-à-dire que quand les couples décident d'avoir un enfant, avant d'enlever l'implant ou la contraception, elle nous rencontre et puis on en discute. Elle nous demande pourquoi on voilà si on, ah ouais. Pourquoi on est prêt, on fait un check-up, elle nous explique un petit peu comment ça va se passer, pourquoi on fait des examens, voilà, donc on nous a fait une prise de sang, et on avait fait ça en couple, un peu le top départ, c'était ouais, voilà, vérifier que je sais pas si elle vérifie si on était prêt ou si on savait à quoi s'attendre ou
ouais.
Voilà, un petit bilan en fait.
Serait-ce que pour vous rassurer un peu avant de vous lancer dans tout ça quoi.
Voilà, un petit
d'accord.
bilan.
Alors le bilan d'un point de vue médical, il consiste en quoi, tu te souviens ou?
Bah moi je me souviens que j'avais fait tout de suite une prise de sang par exemple contre la toxo, savoir si j'étais immunisée ou pas.
Ah, super, OK.
Voilà, donc j'avais fait tout de suite ça, elle m'avait fait même une prise de sang savoir pour tout ce qui était varicelle, enfin il y avait une prise de sang qui était assez globale, voilà. Elle m'avait donné des cachets, c'était de l'acide folique.
Ah oui, ouais, la vitamine, ouais.
Elle nous avait donné tout ça tout de suite, voilà. Mm-hmm. Donc, puis comme elle me suivait moi depuis des années, mais que c'est vrai que les hommes vont pas forcément chez les gynécos, elle le connaissait pas, et puis qu'elle considère, voilà, que c'est pas forcément, enfin, que c'est un projet à deux, et pas que la femme qui doit venir faire le rendez-vous gynéco et, donc elle, voilà, pour elle c'était un rendez-vous à faire à deux et parce qu'on fait un enfant à deux.
Bon,
donc,
c'est
voilà.
super, on c'est mieux comme approche ça. Ok.
Ouais, c'est d'accord. vrai que j'ai eu de la chance d'avoir cette gynéco là parce que dès le début elle nous a suivis et c'est vrai qu'elle nous suit encore maintenant et j'ai vraiment beaucoup de chance de tomber sur elle parce que par la suite voilà c'est vraiment elle qui nous a fait avancer et qui a pas laissé traîner le dossier voilà comme on, des fois on peut l'entendre et c'est vraiment une très bonne gynéco.
Ouais.
Donc ouais, même dès le départ, elle était...
Bon, super, d'accord. Ouais. Du coup, t'arrives un peu en terrain connu, au sens où voilà, t'es suivi par quelqu'un que tu apprécies et, que,
ouais.
et qui semble avoir une approche hyper, ouais. bah, hyper humaine et intéressante.
Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de très humain. Puis c'est une gynéco en libéral de ville, donc pas à l'hôpital où souvent les rendez-vous peuvent s'enchaîner. Ou, voilà, où... C'est vrai qu'elle prend le temps. Quoi. C'est une très bonne gynéco.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est important. Ok, super. Donc du coup, tous ces bilans qu'on te propose sont bons, j'imagine.
Oui, plus ou moins, parce que c'est quand même un bilan très basique, hein, qui n'a rien à voir avec un problème d'infertilité, hein. Donc,
bien sûr.
Donc là, voilà, c'est juste, on prend le rendez-vous, on nous voit, on prend le rendez-vous après pour enlever l'implant, et puis, puis voilà. Puis, du coup, après, on se revoit plus, hein. Elle me dit, bon, bah, voilà, vous avez enlevé l'implant.
Vous avez le feu vert et vous dites, allez, quoi.
Voilà. Voilà. Vous me rappelez quand vous êtes enceinte, en gros. Voilà, parce que je la voyais une fois par an. Donc, en gros, elle me dit, bon, bah, vous me rappelez quand ça a marché. Je serais ravie de vous suivre. Et elle fait les échos, pratiquement jusqu'à la fin quand les femmes sont enceintes. Après, on est pris en charge par la clinique ou le CHU où on veut accoucher. Mais c'est elle qui fait le suivi. Donc, en gros, elle me dit, voilà. On me rappelle quand ça sera bon, donc nous on est hyper confiants. Moi je me suis jamais trop. Oui voilà, il y avait aucune raison de s'inquiéter. Bon moi j'avais pas eu de règles depuis des années parce qu'en fait sous implant c'est une contraception continue. Donc elle m'avait dit voilà de toute façon avec l'implant si vous n'avez pas vos règles tout de suite c'est pas grave, c'est normal, il faut laisser le temps au corps de se remettre. Donc voilà, on a laissé un peu les mois passer et puis voilà, donc bon après je pense comme tous les couples hein, on se met à fond dedans. On a l'impression qu'on est on est enceinte tout le temps. À chaque fois on se dit ça se met sur moi
à regarder quel est le bonjour par rapport à l'ovulation dès le début ou
bah moi oui, mon conjoint lui c'est quelque chose qui n'a pas tout qui l'intéressait pas forcément, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un à la base dans tout ce que je fais. Quelqu'un de très organisé.
Alors, tu planifies quoi.
Ouais, moi j'aime bien, enfin c'est pas trop planifié dans le sens, c'est plus où j'aime bien savoir ce que je fais. Je suis assez curieuse, donc dès le départ, comme si j'aurais pu faire autre chose, c'est que ça m'a intéressée, c'est-à-dire que je me suis tout de suite demandé, tiens comment ça fonctionne, pourquoi il y a telle date, c'est mieux que d'autres dates, donc c'est vrai que je me suis un peu renseignée, puis j'avais beaucoup de copines qui avaient déjà eu des enfants, et du coup, il y avait ma meilleure amie qui était enceinte. Donc j'avais aussi beaucoup de personnes autour de moi qui savaient avec qui je pouvais en parler, qui savaient m'aiguiller.
Ouais, t'as pu poser des questions. Hein.
Voilà, qui m'avaient aussi demandé en fait, tiens, tu fais, est-ce que tu as fait des tests? Tu sais que c'est telle date? Enfin voilà, qui était contente aussi que enfin on se lance parce que j'étais un peu la dernière du groupe à vouloir un enfant, donc tout le monde était voilà, qui était content. Donc du coup, oui, c'est vrai que je me suis renseignée dès le départ sur les bonnes dates, les bonnes périodes, comment ça fonctionne, voilà.
Ok, bon, super. Et alors, donc, du coup, vous lancez, et qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, du coup, donc, les premiers mois, les premières semaines, j'attends mes règles, qui n'arrivent pas, un mois, deux mois, trois mois, je commence un peu à m'inquiéter. Au début, les premiers mois, je me suis dit, tiens, bingo, je suis enceinte, j'ai même pas eu le temps d'avoir mes règles. Mais pas du tout en fait, donc fait un test, deux tests, enfin ça fonctionne pas, donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai acheté des tests d'ovulation, parce que les premiers mois j'avais pas acheté, j'avais laissé, donc on était en mai, donc on va dire en septembre.
Tes règles étaient revenues pour que t'arrives un peu à calculer où t'en étais dans ton cycle
ou... Non, non.
Ah ouais, c'est pas facile du coup.
Non, j'avais pas de règles du tout, donc au bout de, je crois que c'était en mois d'août, septembre, là par contre j'achète des tests d'ovulation. Et en fait, à chaque fois que je fais mon test d'ovulation, il est positif. Et là,
peu importe quand dans ton cycle.
Oui, voilà. Donc le premier ou deuxième test, on se dit ah trop bien, je suis tombée sur le bon jour. C'est bon, il est positif. En fait, voilà, ça va venir. Et puis en fait, pas du tout. Puis à chaque fois, je fais le test et il est toujours positif. Et là, je me dis c'est quand même bizarre. Mais donc du coup voilà, mais je sais pas trop pourquoi, je comprends pas, enfin voilà. Donc là je reprends rendez-vous chez ma gynéco en fin septembre.
Donc là, et ça fait combien de temps à peu près que vous avez décidé que
depuis mai,
bien bébé,
depuis fin mai, donc début juin, fin mai début juin, vraiment fin mai, donc on va dire 1er juin.
Ok,
donc ça faisait juin, juillet, août, ça faisait un peu plus de 3 mois quoi, et toujours pas de règles quoi, donc Donc bon, du coup je prends rendez-vous. Elle me dit elle me dit oui, c'est bizarre, ça aurait dû revenir, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça arrive. On va faire une prise de sang et puis je vous donne des cachets, ça va vous redéclencher les règles. Donc je prends du Faston.
D'accord.
Voilà. Donc je repars de là-bas, pareil.
Des cycles artificiels et ça te permet du coup de retrouver un peu.
De relancer un peu la machine quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est parce qu'elle me dit quoi. Donc donc voilà, donc je m'inquiète pas hein, je me dis bon voilà. Et puis c'est vrai que comme j'en avais parlé qu'à mes amis très proches, donc 2-3 copines. Toute personne d'autre était au courant. On voulait absolument faire la surprise à la famille. On voulait surtout à nos parents, à la sœur de mon conjoint, on voulait absolument faire les surprises. Personne n'était au courant, ça faisait déjà au moins 2 ans que tout le monde nous disait « Alors, c'est quand vous avez la maison, vous allez profiter. » Et nous, depuis le début, on disait « Non, mais en fait, nous, pour l'instant, on va encore voyager, on a encore des choses à faire, on veut en profiter à deux. » Donc on s'était dit voilà, c'est vraiment l'occasion de faire la surprise. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, je pouvais pas trop en parler non plus à d'autres personnes que mes amis très proches qui elles n'en savaient pas plus que moi sur pourquoi j'avais pas de règles ou pourquoi les tests d'ovulation étaient toujours positifs quoi.
La gynéco quand elle t'a prescrit du coup la prise de sang, c'est une prise de sang pour tester quoi?
C'était une prise de sang hormonale.
D'accord, mais tu sais de ou ce qu'est mesuré?
Ouais, c'est le taux des FSH. Il y a le taux de l'AMH aussi dès le départ qu'elle m'avait prendre en septembre, puis après il y a toutes les autres hormones
du cycle quoi.
Voilà, c'était au J3 où il fallait faire la prise de sang. Je sais qu'il y avait le taux FSH et AMH, ça je m'en souviens parce que c'est les taux qui ont été mauvais par la suite. Après les autres je sais plus, il y a le sestradiol, mais c'est un bilan complet hein.
Ouais d'accord.
Donc voilà. Donc du coup, je fais cette prise de sang. Je prends le Duphaston parce qu'il faut faire cette prise de sang au troisième jour des règles.
Ouais, c'est ça.
J3. Donc je prends le Duphaston, ça me lance, j'ai mes règles. Donc moi, toute contente, je me dis c'est bon, c'est fait. C'était juste que j'avais pas eu mes règles depuis des années à cause de l'implant. C'est bon. Là, elles sont là. Donc je fais ma prise de sang. Les résultats sont envoyés à la gynéco Et je regarde même pas les résultats. Hein. Je fais entièrement confiance. Ça part chez la gynéco, je regarde même pas.
Ah ouais.
Donc voilà, on continue. Là, on avait prévu 3 semaines de vacances. Donc on partait en Thaïlande fin 2018.
Sympa, on partait
3 semaines, voilà. Et là, on s'est dit, c'est bon, on va profiter de la Thaïlande. On va un peu tout ce qu'on entend. De toute façon, hein, c'est dans la tête. T'organises trop. Voilà, il faut arrêter d'y penser. Tu vas nous faire un petit Thaïlandais. Voilà, ça, on se dit, bon, allez, c'est bon, on part en vacances, on va décompresser. En plus, moi, au travail, la rentrée, c'est une période assez chargée. Donc voilà, je me dis, c'est bon, c'est avant la fin d'année. Et ouais. Puis donc on part et puis finalement bah voilà rien rebelote, je reprends mes cachets du faston elle m'avait dit il faut le prendre sur 2 mois continu, donc je reprends et puis sur le 2e mois pas de règles, donc même avec du faston ça fonctionne plus.
Ah oh, merde.
Donc là je commence à m'inquiéter, je commence à me dire ouais il y a un problème. Je continue un petit peu à faire ces fameux tests d'ovulation que j'avais arrêté sur les périodes de vacances, sur la fin d'année, parce que je voulais pas non plus
y penser trop. Hein.
Voilà, je me suis dit il faut peut-être lâcher aussi un petit peu les choses, faut arrêter d'être omnibulé par ça. Donc donc voilà, donc là je ressors un petit peu ces tests d'ovulation en fin d'année, toujours tout le temps positif. Puis là je me dis c'est fou quoi.
Ah merde.
Donc je commence un peu à regarder sur internet et puis je tombe sur des trucs qui me plaisent pas. Des trucs qui me font très peur. Bah sur le fait que bah les tests d'ovulation toujours positifs peuvent être une cause, enfin que la cause de ça peut être l'insuffisance ovarienne. Et là on lit des trucs tout de suite ménopause précoce, enfin des choses moi du coup je connais pas. Je connais pas du tout. Je me dis c'est pas possible. Enfin, faut arrêter. On sait tous qu'il faut jamais aller regarder sur Doctissimo quand on est malade, parce que sinon, c'est encore pire. Donc je me dis, non, voilà, c'est les cas les plus graves, mais c'est pas ça quoi. C'est pas possible.
Bien sûr. Et ta gynéco à ce moment-là, tu lui as pas reparlé depuis la prise de sang en fait.
Voilà, je l'ai pas revue depuis septembre. Donc je reprends rendez-vous. On avait fixé un rendez-vous de toute façon en décembre, donc fin décembre, j'y vais. Je lui dis voilà que j'ai pris du faston et que ça j'ai une fois mes règles, après ça part marcher. Donc là elle me refait une prise de sang et du coup elle me dit bon voilà vous faites la prise de sang, là elle me donne du coup une boîte de Climaston.
Ah c'est quoi ça?
Alors c'est du faston en plus dosé, je pense un peu,
plus concentré.
Voilà, plus concentré. En fait, il y a plus d'hormones, il y a plus de cachets et c'est deux hormones différentes. C'est toujours de l'hormone de substitution, hein. Mais c'est pas tout à fait les mêmes hormones, enfin pas en tout cas donné aux mêmes périodes de cycle du mois.
D'accord.
Donc.
Mais alors attends, avant juste que tu me dises ça, du coup, toi, t'as pas vraiment regardé le résultat de la première prise de sang, mais ta gynéco, elle l'a vu. C'était quoi, du coup, le résultat de sa première prise de sang? Elle t'en a pas parlé? Enfin, non. Rien d'alarmant ou...
Non, elle m'a rien dit.
Ah ouais.
Elle m'a rien dit. Le taux de FSH à ce moment-là est bon. Le taux de AMH est bas. Mais ça, je le sais pas, moi, encore, hein. Donc, voilà. Mais le taux de FSH est bon. Okay. Donc du coup elle me dit rien. Elle me dit rien. Elle me dit bon elle me dit c'est pas normal que vous ayez pas vos règles. Après elle me dit bon ça fait pas un an donc on est ça fait pas un an encore. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que les médecins de toute façon tant que ça fait pas un an qu'on est en essai, de toute façon on n'a pas accès à la PMA. Donc de toute façon, je pense qu'elle attend un petit peu, elle continue un peu les recherches.
Ouais,
et du coup, elle me dit, vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes jeune. Et ça, je l'ai entendu très souvent. Vous êtes jeune, vous inquiétez pas, vous êtes jeune.
Facile.
Ouais, parce que j'ai pas 30 ans à ce moment-là. Puis du coup, voilà. Donc elle me refait faire ma prise. Elle me donne cette boîte de Climaston. Elle me dit, vous commencez ça. Normalement, vous devriez avoir vos règles. Vous me refaites une prise de sang à J3 et on refait une écho. Donc, okay. Donc je reprends ma boîte de Climaston, j'ai mes règles de nouveau, je fais ma prise de sang, et là, par contre, au moment où je reçois les résultats, donc fin du mois, mm-hmm. Janvier, je regarde. Et okay. là, c'est la catastrophe parce que du coup, je regarde sur Internet, je fais des vraies recherches par rapport à ça, et les taux sont mm-hmm. catastrophiques. J'ai un taux de FSH qui est très élevé par rapport à ce que je devrais avoir à mon âge. Et, et voilà, et le taux de AMH, l'AMH, c'est le taux de stock d'ovocytes chez la femme.
Ouais. D'accord.
Et donc, les deux résultats en commun font que c'est une insuffisance ovarienne précoce.
Ouais.
Et le seul moyen d'avoir, donc moi c'est ce que je lis sur Internet, hein, que le seul moyen d'avoir un enfant dans ces cas-là, c'est le don d'ovocytes. Et là, là c'est la catastrophe parce que je suis chez moi, je suis sur Internet, je regarde ces trucs-là, je me dis c'est pas possible.
Le médecin pour t'accompagner dans ce que tu trouves.
Ouais, en fait je l'appelle et elle est en vacances, elle est partie 3 semaines en vacances en Afrique.
Ouais, donc injoignable.
Ouais. Donc là je peux pas l'appeler. J'ai pas d'infos, donc j'appelle là à ce moment-là, j'appelle des copines à moi. J'ai des copines qui sont médecins et mm-hmm. j'ai des copines qui ont fait de la PMA. Donc d'abord la première chose mm-hmm. que je fais, c'est que j'appelle une copine à moi qui est médecin. Je lui dis écoute je viens d'avoir des résultats c'est mauvais, j'ai regardé sur Internet. Donc elle me dit écoute calme-toi, c'est pas forcément tout ce que t'as lu sur Internet n'est pas forcément vrai. Il faut que de toute façon t'ailles voir un médecin. Il faut faire une écho. Panique mm-hmm. pas. Voilà. C'est pas une science infuse.
C'est pas fait quoi.
Voilà. Puis t'as fait qu'une prise de sang. Il faut en faire plusieurs. Il y a peut-être des traitements. Voilà. Donc qu'elle me dit voilà, t'inquiète pas. Et puis moi j'appelle une autre copine qui elle a fait qui a eu un parcours de PMA.
Mm-hmm.
Et je lui dis, donne-moi les numéros de la clinique. Je vais prendre rendez-vous tout de suite parce que je sais qu'il y a des délais qui sont longs pour avoir des rendez-vous. Mmh. Et le temps que moi, je ma gynéco à moi de ville, elle rentre de vacances et que du coup, j'ai mon rendez-vous avec elle et que je sais qu'elle va me renvoyer vers eux, au moins mes rendez-vous seront déjà posés.
Ouais,
et
bah.
J'aurais gagné ces semaines-là. Donc, c'est ce que je fais. Toujours très organisée hein, dans tout ça, mais voilà, j'anticipe un maximum quoi. Je me dis, faut pas que je perde de temps, c'est pas possible, je peux pas rester ça comme ça sans savoir parce que je vais péter les plombs quoi.
Ouais, sûr.
Puis voilà, j'étais très très angoissée quoi. J'avais peur, enfin je me dis, j'ai de pas savoir en fait. Donc
ouais,
donc voilà, je reste comme ça. Puis entre temps, bah j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu 30 ans début février.
Mmh.
Et là, c'était dur quoi, parce que du coup, il fallait fêter l'anniversaire. La moitié des personnes qui étaient à l'anniversaire étaient au courant. Enfin, une partie des gens étaient au courant qu'on essayait. L'autre partie, surtout ma famille, nos amis, enfin notre famille proche n'était pas au courant. Donc ils ont vu que j'étais pas bien. Ils comprenaient pas. Moi, au début, je voulais pas le dire. Je voulais surtout pas affoler les gens, notamment ma mère. Je voulais pas les affoler avant d'être sûre.
Avant d'avoir eu les résultats, vrais, quoi. Mm-hmm.
Voilà. Avant que quelqu'un me l'ait dit vraiment, je voulais pas annoncer et devoir faire marche arrière en disant finalement non, j'ai lu un truc sur Internet, c'est faux, enfin voilà.
Bien sûr. Ouais.
Donc du coup, voilà. Donc j'ai évité, on a fait mon anniversaire. Après, j'ai essayé d'éviter un maximum les gens.
Pour pas avoir à dire quoi.
Ouais. Pour pas avoir à m'expliquer, à ce qu'on me pose trop de questions et tout ça.
Ouais.
Donc voilà. Après, donc là, à ce moment-là, je fais plein de recherches. Je commence à regarder des émissions. Il y a énormément d'émissions. Enfin, énormément. Non, il n'y en a pas assez, mais il y a des émissions qui parlent de ce sujet-là. Avec des femmes.
Ah ouais, ou ça?
Eh ben, il y a une émission qui est assez connue. C'est sur France 5, je crois. Ça commence aujourd'hui.
Ah oui, ok.
Avec Justine Bollard, je crois qu'elle s'appelle, pas de bêtises.
Ouais.
J'avais regardé une autre émission qui est, qui est très bien. J'avais retrouvé en fait sur YouTube, hein. C'est des vidéos que j'ai retrouvées sur YouTube.
Ouais, ouais. Non, mais c'est pour savoir, ouais.
Ouais. Franchement, sur le coup, voilà, si j'ai regardé ça, c'était surtout de, comme c'était complètement inconnu pour moi tout ça, voilà, j'avais besoin de comprendre
le sujet. Voilà. Ouais.
Et surtout, je cherchais, en fait, moi, je cherchais pas forcément des témoignages sur le don d'ovocytes. Je cherchais des témoignages de filles qui avaient ça et qui avaient réussi à avoir des enfants avec leurs ovocytes, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça. Voilà.
Moi, je voulais une solution à mon problème.
Ouais, mon marché, quoi, bien sûr.
Mmh. Ouais. Donc, du coup, en...
On a trouvé une histoire de personnes qui avaient réussi à devenir maman.
Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, surtout par Instagram. Sur Instagram, ouais, j'ai pu discuter avec certaines filles qui elles avaient réussi avec une taux de AMH faible, mais qui n'était pas encore, c'était pas une insuffisance ovarienne définitive ou voilà.
C'était un début. Donc vous n'avez pas eu à passer par le don.
Voilà, qui était passé par les FIV, avec des stimulations pour récupérer vraiment ce qui restait.
Mmh.
Mais voilà, un stock réduit, mais pas vide, hein, comme on dit.
Mmh. Ouais. Pas zéro.
Voilà, pas à zéro. Donc là, ça me redonne un peu de courage. Enfin, voilà, je me dis, ça se trouve, il m'en reste, quoi. Enfin.
Bah ouais, bien sûr.
Donc,
T'as dû 3 semaines hyper longues, quoi, d'attendre.
Ouais, ouais, ouais.
De faire ses recherches. Enfin, du coup, tu t'interprètes des trucs quand même toute seule.
Ouais, c'est ça.
Dur, quand même. Sans avoir la moindre interprétation d'un professionnel de santé qui connaît vraiment ton dossier, quoi. Ma pauvre.
Ouais. Ouais. En fait, je m'accroche à... j'essaie de me persuader qu'en fait, on va passer par la PMA, c'est sûr. C'est pas grave, parce que j'ai plein de gens autour de moi qui le font et ça se fait.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Pas paniquer.
Non, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais mais on va rester. Enfin voilà, je suis jeune, donc il y a pas de. Souvent, les témoignages que je trouve de filles qui sont passées par le don, c'est des filles qui ont déjà plus de 35 ans.
Ah ouais, d'accord.
Bon, ce que je trouve, voilà, dans mon cas, après, il y a des filles qui passent par le don pour beaucoup d'autres, pour d'autres maladies ou d'autres raisons. Mais dans ce cas-là, à mon âge, j'en trouve pas. Donc, je me dis, non, mais en fait, t'as 30 ans, et voilà, le stock, il est bas, la prise de sang est mauvaise, mais il doit forcément rester.
Ouais.
Donc, entre-temps, je fais mon rendez-vous avec ma gynéco. Elle me dit, bon, je lui dis que j'ai regardé sur internet les résultats.
Bien sûr.
Donc elle me dit, bon, je pense que vous avez vu que c'est pas bon. Je lui dis oui. Elle me dit, bon, de toute façon, et là elle me redit, de toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, ils vont trouver une solution. voilà, à chaque fois. Mais je pense que même elle, c'est tellement encore quelque chose, entre guillemets, de rare et de tellement peu connu chez les femmes jeunes.
De ton âge, ouais.
Et elle, de toute façon, elle a connu personne à part moi dans mon cas. Donc, du coup, c'est vrai que pour elle, c'était même quand on a vraiment appris le diagnostic définitif et que je suis venue la voir, elle était étonnée. Elle me dit, mais c'est pas possible.
Ouais.
Donc, du coup, à ce moment-là, elle est encore optimiste. Elle me dit, oui, c'est pas les examens, les résultats sont pas géniaux, mais le centre, il est très bien. Vous allez prendre rendez-vous. Je vous fais une recommandation. Vous allez être prise rapidement. Là, je lui dis, vous inquiétez pas, j'ai déjà rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. Parce que finalement, j'avais rendez-vous en un mois. 3 semaines après, j'avais l'examen avec elle. Ouais. Donc, elle me dit, c'est bien, vous avez bien fait. Donc, voilà, même en sortant de chez elle, je suis encore optimiste. Et puis... Et puis du coup, on va à ce fameux rendez-vous au mois d'avril. Donc, c'était début avril.
Okay.
On va au rendez-vous avec... j'avais pris rendez-vous avec la première gynéco de PMA du CHU qui était disponible dans les dates les plus rapides, quoi. Et donc là, j'y vais avec mon conjoint. On arrive. Donc là, déjà, je tombe sur une... J'arrive, c'était une gynéco pas tout à fait... Pas tout à fait 30 ans, puis enceinte de 7 mois.
D'accord.
Alors là, déjà, bon, bonjour. Bon, j'ai rien contre les femmes enceintes, mais c'est vrai que sur le coup, on se dit bon. Bon, ben voilà.
Oui, j'imagine.
Et puis...
Tu n'es pas accueillie à bras grands ouverts par toutes ces patientes.
Ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai que je... Enfin, elle a le droit, c'est normal, hein. Elle travaille, hein. Et puis, elle a des enfants, c'est normal. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit... on vient là ouais. Parce que, voilà, on n'en a pas, on n'arrive pas à en avoir. Et puis, bon. Voilà, donc déjà, j'arrive, je regarde mon conjoint, du genre, bon, bah, elle a pas eu de soucis, en tout cas. donc, bon, moi, franchement, je suis encore confiante, hein, voilà, j'avais fait mes recherches, mais. Et puis, j'avais plein de questions, surtout. J'avais plein de questions, je me posais, je disais, voilà, il faut qu'on sache, tout ça. Et puis, donc là, elle me dit, bon, elle prend mes résultats de prise de sang, elle me dit, bon, on va faire une écho. Et là, pendant l'écho, elle me dit, bon, bah écoutez, je suis désolée, on pourra rien faire pour vous. Il y a pas de solution. Ouais, pendant l'écho, hein, ça a duré, le rendez-vous au total a duré un quart d'heure.
Mais elle est hyper cachée, enfin, ouais. Ça sert à rien de faire des commentaires comme ça, quoi, enfin c'est...
Ah bah c'était radical, on va dire, voilà. C'était pas méchant, mais c'était radical. Donc elle m'a... donc j'étais même pas habillée, hein, j'étais sur la table avec l'écho, voilà. Elle me dit voilà, il y a rien, il y a plus de stock, il y a rien, je vois rien. On pourra pas vous aider. Et là je suis sur le, donc mon conjoint lui là sur le fauteuil, hein, enfin devant le bureau. Moi, je suis sur le fauteuil d'examen, quoi. Je le regarde, je suis pas sûre de comprendre. Enfin, je me dis c'est pas possible. Dans ma tête, je me dis c'est pas possible. Puis du coup, j'ai cherché des solutions. Donc en même temps, je me rhabille parce que du coup, elle avait arrêté son examen, hein, tout. Elle était en train de reprendre. Voilà, moi, je me lève, je me rhabille et je lui dis mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi mes tests d'ovulation sont toujours positifs et puis j'avais toujours un peu un pincement, j'avais un peu l'impression d'avoir des ovulations, avoir un peu un pincement aux ovaires tous les mois. Et je lui dis ben je voilà pourquoi mes tests sont positifs et puis pourquoi j'ai toujours l'impression d'avoir un pincement. Et là elle me regarde, elle me dit non mais vous inquiétez pas, de toute façon à votre stade vous ovulez plus.
Oh.
Ok, alors là bon ben prends ça, hein, comme ça ouais. Bah, bon, au moins c'est clair, donc ok,
oh, vous inquiétez pas, enfin ouais,
ah ben je sais pas, oui, au moins c'était voilà, il fallait plus que je m'inquiète pour rien en fait, de toute façon il y avait plus rien qui fonctionnait, donc fallait pas que je cherche aucune voilà, de toute façon comme rien ne fonctionnait, comme il y avait plus aucune solution, c'est plus la peine de rêver de faire quoi que ce soit, quoi, pas de test.
Mais du coup elle te parle pas, enfin elle te propose aucune alternative, elle te dit juste on peut pas vous aider, il y a rien qui fonctionne.
Bah là comme ça ouais. Donc bon, je me rhabille, je m'assois à côté de mon conjoint voilà, donc là par contre, j'essaye de rester, enfin je suis stoïque quoi, parce que je me dis je sors pas de là si j'ai pas une solution. Enfin, je veux savoir. Ouais. Alors du coup, moi sur le coup, je me rappelle de tout ce que j'ai vu dans ces fameuses dans mes recherches que j'avais fait les mois d'avant.
Mm-hmm.
Je me rappelle que bah voilà, les fameux dons d'ovocytes. Voilà, je me dis voilà, don d'ovocytes, l'étranger, l'Espagne, la République tchèque, le tarif, voilà, parce que moi tout ce que j'avais lu c'était en France 4 à 5 ans d'attente.
Oh la vache.
Donc là je me dis ok, moi j'avais lu ça sur internet, j'avais lu toutes les témoignages que j'avais vus, c'était des filles qui étaient parties à l'étranger.
Mm-hmm.
Donc dans ma tête je me dis tout de suite, don d'ovocytes, étranger, comment on fait?
Ouais.
C'est toujours, enfin après c'est un peu mon caractère aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est tout ce que je me suis accrochée à ça tout de suite, même dans les 15 minutes du rendez-vous, je me suis dit je sors pas de là si je sais pas.
OK.
Et donc elle me dit est-ce que vous, alors de toute façon je me rassois et elle me dit est-ce que vous connaissez le don d'ovocytes? Je dis oui. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je lui dis oui, je connais. Donc vous allez
me dire.
Ça
fait un mois que tu fais que ça, quoi.
Oui, bah c'est ça. Mais bon, je pense qu'elle ne devait pas s'y attendre, donc.
Ouais, c'est ça.
Donc je lui dis oui. Donc elle me sort le papier, elle me dit voilà, bah vous avez tel numéro à appeler. pour vous inscrire sur la liste. Donc, ok, je lui dis, mais on n'attendra pas 4 à 5 ans. Mmh. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, dans notre centre, les délais sont courts, il y a à peu près une année, enfin, entre 12 et 18 mois d'attente.
Ouais, c'est vachement court.
Ouais, non, mais par rapport à 4, 5 ans, c'est toujours mieux.
Oui, bien sûr, c'est plus court, mais enfin, ça reste hyper court, quoi.
Ouais, ouais, pour elle, c'était court. Donc, elle me dit, non, non, vous inquiétez pas. Ouais, c'est chez nous, oui, c'est ça. Notre centre est top. Donc, bon, je dis ok. J'ai dit, par contre, donc là, après, je me rappelle plus exactement la conversation, mais en gros, je me souviens qu'elle nous dit, voilà, essayez en France, restez en France, notre centre est très bien. Rencontrez la biologiste, vous ferez après votre décision après, voilà, si vous voulez partir à l'étranger. Mais moi, je vous conseille de rester en France, voilà.
C'était assez, de toute façon. Et tu dis pourquoi elle conseille d'aller en France, de rester en France ou?
Non,
à part elle a pas d'argument particulier ou?
En gros, on nous fait un peu comprendre qu'à l'étranger, c'est payant, donc c'est un peu une industrie. Enfin, je veux pas mettre des mots qui sont mauvais, mais elle nous fait un peu comprendre que à l'étranger, voilà, les filles qui donnent leurs ovocytes sont rémunérées et que du coup, c'est des cliniques privées. Et voilà, au niveau de l'éthique en France, on serait mieux. Voilà, c'est ce qu'elle veut nous faire un peu comprendre, ce que moi je comprends en tout cas.
Mmh.
Et que, voilà. Mais c'est très rapide, de toute façon, elle nous dit, voilà, elle nous dit juste, les délais sont plus courts que ce que vous pensez, notre centre il est bon, ne vous précipitez pas à l'étranger. Voilà.
D'accord.
C'est plus ça qu'elle veut nous dire, c'est ne vous précipitez pas à l'étranger, c'est pas la peine de faire vos valises demain.
De tout considérer, quoi. D'accord.
Voilà.
Ok.
Donc c'est ce qu'on fait.
Voilà. Alors, si on fait une petite pause, juste donc avant d'aller rencontrer la biologiste, toi et Adrien, comment est-ce que vous vous sentez là? Enfin, si on fait une petite pause, un petit check, comment est-ce que vous vivez en fait ces nouvelles? C'est des nouvelles particulières, quoi.
Déjà, moi, je suis restée sur ma chaise, c'était stoïque avec mes questions et mon papier, et puis mes numéros, et puis voilà, mon organisation. Et je sors de la salle d'examen et je fais 5 mètres jusqu'à l'ascenseur. Et une fois qu'on a passé la porte des salles de consultation, entre les salles de consultation et puis l'ascenseur, là, je m'effondre. J'ai les jambes qui lâchent. Je pense que c'est le moment le plus difficile de toute ma vie. Il est obligé de me tenir. Mm-hmm. Il me tient. J'ai l'impression qu'on m'a annoncé le drame de ma vie. Hein. Là, il me tient. Je pleure comme tout ce que je peux pleurer. Mm-hmm. Je m'accroche à lui. Je lui dis j'en veux pas. Je sais même plus exactement ce que je crois que je lui dis ils vont pas être beaux j'en veux pas puis je pleure et puis il me tient parce que j'ai les jambes qui ont lâché j'aurais pu tomber ma soeur par terre quoi. Qui me tient, il me dit ça va aller, t'inquiète pas, tu vois, elle nous a dit il y a des solutions, enfin voilà, après tous les souvenirs, mais voilà, je sais
bien
que
sûr, bien sûr. Ouais, non, mais...
je suis dans un état lamentable. Et là, je me souviens d'une chose, c'est que du coup, c'est la gynécologue qui sort, qui veut prendre l'ascenseur, qui me voit et qui me dit « Mais est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on en reparle ?» Et là, je crois que je ne peux même pas lui parler. Je sais que mon conjoint, il lui dit « Non, non, mais c'est bon. » Mais non, en fait, c'était pas dans la salle entre la consultation puis l'hôpital l'ascenseur qu'il fallait qu'on parle. C'est dans la salle. C'est à ce moment-là qu'il fallait me demander est-ce que ça va. Parce qu'à aucun moment, elle nous a demandé est-ce que ça va. Est-ce que vous avez. Elle nous a demandé est-ce que vous avez des questions. Mais, non, là, comme ça, j'ai pas de questions, en fait. Elle nous a pas dit est-ce que ça va. Est-ce que vous voulez qu'on fixe un rendez-vous dans un mois? Prenez le temps de réfléchir. On se revoit dans un mois. Et vous aurez la possibilité d'encaisser et puis de me poser toutes les questions qui vont vous venir.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est vraiment, quelle que soit l'annonce qu'on fait, même pas que pour la PMA, hein, je pense que c'est le minimum, quoi. On annonce un truc comme ça, le minimum, c'est de dire aux gens, Voilà, c'est difficile ce que je viens vous annoncer. Est-ce que ça va? Et est-ce que vous avez besoin qu'on fixe un rendez-vous parce que vous allez avoir des questions qui vont vous venir?
On devrait presque même le fixer d'office, c'est ça?
Oui, voilà.
Parce que forcément, t'as des questions, même dès que tu vas arriver chez toi, tu vas avoir tes premières questions qui arrivent. Merde, j'aurais dû demander ça.
Exactement.
C'est ouais.
Mon conjoint, il lui dit non, c'est bon. Vous inquiétez pas. Je suis là, quoi. Donc, ouais. Voilà. Puis on repart. Et puis là, c'est la catastrophe pendant des mois. De toute façon, ça a été un peu la descente aux enfers. Pendant des mois, hein. Donc voilà, donc là on rentre, on en parle. Lui, Adrien a tout de suite été, pour lui, c'était pas grave. Enfin, pour lui, il y avait des solutions. Il me disait, ouais, ça t'arrive quelque chose.
L'objectif et
ouais.
Ouais, d'accord. Ouais.
Lui, il m'a tout de suite dit, il m'a toujours dit, dans la vie, il arrive des choses. Là, voilà, t'es malade, c'est pas grave. Il y a des solutions et on va y arriver et voilà. Pour lui, il dit de toute façon tu vas le porter, donc voilà, c'est vrai que c'est ça, tout de suite on se dit je vais le porter. Donc déjà voilà, c'est mieux que de pas pouvoir le porter. Donc voilà, ça sera notre enfant, je vais le porter, il y aura une grossesse. La seule chose qui me manque, parce que moi j'avais posé la question, je lui ai dit mais est-ce que tu veux pas t'en aller, est-ce que tu veux pas, enfin tu te rends compte, tu vas peut-être faire un enfant avec une autre femme. Et lui il me dit non, il me dit c'est pas une autre femme, il me dit toi il te manque, voilà, il te manque une ovule, il y a quelqu'un qui va l'hôpital, quelqu'un va, voilà, grâce à la PMA tu vas pouvoir, on va te donner une ovule, c'est quelque chose qui te manque, et grâce à ça on aura un enfant. Il dit c'est pas une femme qui va me donner, il n'y a pas d'autres femmes, voilà. Ouais. Alors que moi c'est pas comme ça que je vois les choses, quoi. Pas du tout. Donc je fais mes démarches pour le don parce que j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, j'ai besoin d'avancer, je veux pas perdre de temps. Mais je suis pas du tout, prête à le faire, quoi. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce que je veux pas avoir de regrets. Je me dis, je vais tout faire, toutes les démarches, et je le ferai au moment, si au moment où on m'appelle, je suis prête, je le ferai. Et si je suis pas, ben je ferai pas. Mais en attendant, j'aurais pas perdu de temps.
Ouais, c'est donc, bien de réussir à tourner comme ça. C'est chapeau.
Bah, voilà. Bah, de toute façon, je me dis, on a 12 à 18 mois déjà. L'Espagne ou l'étranger, de toute façon, pour l'instant, c'est trop tôt pour eux. C'était trop tôt pour nous. Parce que j'aurais jamais pu y aller comme ça. Il y a des délais à peu près de 2 à 3 mois. Donc, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Il fallait que j'encaisse et tout ça. Et donc, je me dis, voilà, je fais. De toute façon, moi, je perds pas de temps. Les délais sont longs. On va pas, voilà. Mais ça va me laisser le temps d'accepter et ça va me laisser le temps d'encaisser les choses. Parce que moi, je pleure tous les jours dans la voiture, en allant au travail, en rentrant le soir chez moi, en allant me coucher, en regardant une émission. Je pleure pour un rien, quoi. Dès que j'ai quelque chose qui me rappelle le fait que on peut pas avoir d'enfant, je pleure. Donc je fais que pleurer tout le temps. Donc c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué parce que et puis j'essaye de pas trop pleurer devant les gens parce que je veux pas non plus, vu que je pleure tout le temps, je veux pas non plus pleurer tout le temps devant tout le monde. Voilà, le matin je pleure en allant au travail et puis je me dis voilà, t'as arrêté de pleurer avant d'arriver. Le soir, j'essaye de...
Et t'essayes d'en discuter avec quelqu'un. Tu parlais de tes copines qui sont en PMA, que t'évacues ça, que tu puisses parler.
C'est vrai que là mes amis sont au courant, mes amis proches sont au courant, on met au courant nos parents. Là tout le monde commence à...
D'accord.
Là, ma mère qui vient chez moi, je lui dis écoute, il faut qu'on parle. Donc là je l'annonce, on l'annonce à toute la famille proche pratiquement. Comme ça, moi c'est quelque chose que j'avais besoin d'en parler. Enfin, j'avais pas besoin d'en parler, mais j'avais besoin que les gens sachent et qu'on me pose pas de questions.
Ouais, non, mais je comprends. Ouais.
Je voulais pas être dans cette, dans ce, dans le secret, dans ce côté, on le dit à personne, mais en même temps, du coup, faut garder la tête haute. Donc, ouais. En fait, voilà, on l'a dit à mes parents, on l'a dit à ses parents, on l'a dit à sa sœur, on l'a dit à mon frère, on l'a dit à... Voilà, comme ça, tout le monde était au courant. Et personne, voilà, tout le monde savait si j'allais pas bien, pourquoi j'allais pas bien, on posait pas de questions. Et ouais. Puis les gens étaient là pour nous aider. Parce que du coup, pour moi, j'avais besoin d'aide.
Bien sûr.
Donc moi, c'était pas possible de pas le dire ou de le cacher. Et j'avais besoin que les gens soient là pour moi. Donc pour qu'ils soient là pour moi, il fallait qu'ils le sachent.
Bien sûr.
Donc là, ouais, on l'a dit. Donc un peu, bon, bah, voilà, hein, enfin, tout le monde est tombé des nues, hein, tout le monde c'était pas possible. Hein, voilà, ma mère, ouais, ça a été très compliqué aussi pour elle parce que. Puis sa seule fille, et puis presque aussi difficile que pour moi, voilà. Donc c'est, mais au moins on est bien entouré. Ça, c'est vrai que toutes mes copines, notre famille, on a toujours été accompagnées, on nous a toujours soutenues, voilà.
D'accord.
Donc voilà. Après, on s'accroche à ce qu'on peut. Moi, j'ai mon frère qui a deux filles.
Ouais.
Et étonnamment, y a beaucoup de filles avec qui je discute qui font des rejets des enfants, des autres, qui veulent pas avoir les enfants. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai toujours été proche des filles, notamment de la première fille de mon frère.
Mmh.
Et j'ai l'impression que ma belle-sœur, elle l'a compris tout de suite.
Ah ouais.
Et du coup, j'ai énormément gardé, sur cette période-là. Donc, on va dire entre avril et septembre 2019, j'ai beaucoup gardé ma nièce.
Ok.
Et parce qu'en fait j'en avais besoin. J'avais
ah ouais.
Ouais. Parce que je l'aime tellement. Mm-hmm. Et en fait de l'avoir vers nous, déjà ben ça comblait peut-être un petit peu le vide du coup qui s'est créé encore plus que ce qui était allé avant.
Ouais.
Et puis et en fait ça m'a aidé à me dire que il y a pas que l'ADN lien biologique qui fait qu'on a de l'amour envers des enfants.
Bien sûr.
Et en fait, je me disais voilà, elle est là, elle est chez nous. Alors on est parti en vacances on l'a emmenée à Center Park, voilà, on est avec nous. Et grâce à ça, je me disais mais en fait tu vois comment tu l'aimes? C'est pas possible et pourtant c'est pas ta fille. Donc il y a pas de raison que si un jour tu portes un enfant, même si c'est biologiquement ou l'ADN n'est pas le tien, tu pourras que l'aimer.
Bien sûr.
Et donc du coup voilà, c'est
un corps d'équipe du coup.
Ouais, ça m'a aidé à accepter le don, à accepter de passer par là, accepter voilà, de laisser, de faire le deuil en fait de ce lien biologique, parce que c'est compliqué, parce qu'en plus je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi je m'étais toujours imaginé un petit peu un mini nous quoi, une moitié de lui, une moitié de moi. Alors personne ne sait à quoi ressemble son enfant quand il naît, hein, ça c'est voilà, mais moi j'avais une image un petit peu idéaliste de à quoi allait ressembler ma fille ou mon fils, et ça du coup faut laisser le laisser de côté, parce que du coup, enfin, il faut l'oublier, parce que du coup, c'est pas possible. Et ça, il faut quand même, voilà, se dire non, bah non, il ressemblera pas à ça. Et quand on voit des photos de moi petite, ben, du coup, non, il pourra pas me ressembler et ça sera pas. Donc ça, c'est difficile, même si c'est pas vraiment, franchement, finalement, c'est pas le plus important dans le fait d'avoir un enfant. C'est des choses à accepter, parce que c'est ça qui va vraiment se passer.
Ouais,
donc,
d'accord.
Voilà.
Est-ce que les médecins te fournissent une sorte d'explication de pourquoi ta réserve ovarienne est si basse à ton âge? Enfin, est-ce qu'on a une idée de la raison?
Les perturbateurs endocriniens.
Ah ouais.
Ouais.
D'accord.
Voilà, c'est la seule. Alors moi j'ai fait des tests, j'ai rien qui est ressorti au niveau des caryotypes, voilà, ils ont fait énormément d'examens et il y a rien qui ressort. J'ai rien d'anormal. Ça vient de l'environnement,
Ah, vache.
Voilà. De tout ça, des ondes de téléphone, de ce qu'on mange, de ce qu'on se met sur la peau, sûrement des services hygiéniques, tout ce qui est mauvais, en fait, et qu'on utilise au quotidien, et voilà.
Okay.
Et puis on me dit bien que, on est encore pas beaucoup. Parce que pour l'instant, c'est encore à peu près une femme sur 1000.
Mais c'est quand même énorme.
Voilà, mais que c'est pas, que au niveau des raisons d'infertilité, hein, c'est pas les plus fréquents. C'est encore pas, les pourcentages les plus élevés, parce qu'on va retrouver quand même des choses comme l'endométriose ou SOPK qui sont plus répandues et qu'on connaît plus. Mais que de toute façon, plus on avance et plus il y a de femmes qui ont ce problème-là et qui vont avoir besoin d'un don d'ovocytes.
D'accord.
Donc, du coup, on est toujours dans cette... Donc là, on fait les démarches, on a eu notre rendez-vous avec la biologiste qui était très gentille, qui ça s'est super bien passé. Donc, il nous dit, qu'il nous réexplique, il nous dit, voilà, prenez votre temps en France, essayez. Ça vous laisse... Voilà, l'Espagne, ça va pas, ça sera toujours là si vous voulez y aller, mais... Faites-le en France, essayez en France, voilà. Donc c'est ce qu'on a. On a pris la décision de le faire en France. Mon conjoint, lui, était plus rassuré de rester en France.
Ok.
Pour lui, on a la chance d'avoir notre centre de PMA à un quart d'heure de chez nous.
Ah ouais, c'est cool. Enfin, c'est pratique, ça.
Voilà. Donc c'est vrai que pour lui, la France, c'est beaucoup plus rassurant vu que c'est arrivé comme ça d'un coup. Ça fait pas des années qu'on fait des traitements. C'était tout nouveau pour lui, voilà, d'être dans un centre en France avec des médecins. Il a confiance et c'est pour ça qu'on a décidé d'attendre et de faire une tentative en France.
Ok, d'accord. Très bien. Et alors donc du coup, là vous êtes quoi ? Enfin, il faut donc attendre l'attribution de ce don ?
Oui. Donc en fait, il y a plusieurs choses en France, il y a plusieurs règles ou plusieurs façons de faire en fonction des centres. Il y a des centres qui, en fonction de si on ramène, si on a une personne qui fait le don en venant de notre part, en fait, hein, c'est une personne qui va, une fille qui va faire une stimulation, qui va donner ses ovocytes, ça fait passer les personnes en attente en priorité. Donc ça marche comme ça dans beaucoup de centres en France. Ça permet de pas attendre les 1, 2 ans, 3 ans, ça dépend après des centres en fonction des listes d'attente. Et là donc du coup on se renseigne et nous ils nous disent non dans notre centre à nous on ne fait pas ça. On ne fait pas passer en priorité des femmes par rapport à d'autres.
Ok, bon.
Donc bon voilà, mais par contre autour de nous. Tout le monde est hyper sensibilisé et hyper très touché par ce qui nous arrive et du coup j'ai 6 copines, 6 amis même hein, parce que c'est pas des copines hein, c'est 6 amis à moi qui font les démarches pour faire le don.
C'est dingue.
Ouais,
c'est énorme.
C'est fou. Je m'y attendais pas. Ça nous permet, en fait, le fait qu'elle donne, ça nous fait pas monter en priorité et ça fait passer les gens devant nous.
Ouais.
Donc, forcément, ça nous fait monter plus rapidement dans la liste.
Ouais.
Et là, c'est vrai que ça aussi, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a énormément, énormément aidée. C'est le fait que toutes ces filles se mobilisent, fassent les démarches. Donc, il y a mes belles-sœurs, il y a mes copines. Elles le font. Ma belle-sœur et une copine des premières qui font le don, je suis même pas au courant. Je sais qu'elles vont le faire. Je l'ai au téléphone. Je dis au fait, t'as eu des nouvelles du centre? Ah bah oui, je l'ai fait la semaine dernière le don.
Oh, c'est dingue, c'est génial.
Je dis, mais tu rigoles? Je savais qu'elle était en démarche, mais je savais pas qu'elle avait commencé sa stimulation, que c'était déjà fait quoi, parce que bon après. Les stimulations, ça dure une semaine. Donc, elle me dit, oui, c'est fait. Et puis ma belle-sœur, pareil. Et puis du coup, enfin, et ça se mobilise autour de moi. Et ouais. Et ça, enfin, je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait tenir le coup et ce qui m'a fait aussi accepter, parce que d'un côté, je me disais voilà, le fait elle donne, elle se pose pas de questions et elle donne pas elle donne pas un enfant. Si elles arrivent, elles font la démarche de donner un ovocyte, donc une ovule. Ça veut dire elle donne pas d'enfant, sinon elle le ferait pas. Donc elle donne pas d'enfant. Donc ça veut dire que moi qui reçois, je ne reçois pas un enfant. Je reçois une ovule de quelqu'un qui a fait une démarche comme elles le font, parce que moi, elles ne m'ont pas donné pour moi, hein, faut que ça reste anonyme.
Bien sûr.
Ça veut dire que moi, je vais recevoir cette ovule d'une femme qui font les mêmes démarches qu'elle et qui est allée d'elle-même, sans contrepartie, faire une stimulation et donner ses ovules. Et ça peut déjà, enfin, ça peut être qu'une personne, une bonne personne, une personne merveilleuse. Et voilà, je me dis, en fait, la question, elle se pose même plus, elle se pose même plus. C'est, voilà, c'est dur de faire le deuil d'une ressemblance, de l'ADN, mais c'est tout. C'est tout, en fait. La seule chose sur laquelle je vais mettre une croix, c'est un critère physique.
Ouais, bien sûr.
Et le reste, de toute façon, c'est une ovule. Une ovule, c'est pas, personne n'a éduqué une ovule avant de le donner. Personne ne lui a donné de l'amour. Personne, voilà. C'est qu'une ovule. Donc voilà. Donc du coup, et c'est là où après, où vraiment, je savais que de toute façon, on allait le faire et que j'étais sûre de mon choix et que voilà, on attendait qu'une chose maintenant qui nous appelle et qu'on puisse enfin avoir notre donneuse à nous.
Ok, donc là, ça fait combien de temps du coup que vous attendez votre don ?
Eh ben, ça va faire un an au mois d'avril. Ça fera un an au mois d'avril.
Donc vous attendez, là, c'est pour bientôt.
C'est imminent. Ouais.
Super. Ok.
C'est pour bientôt. On ne sait pas encore quand, parce que du coup, nous appeler le jour où ils nous appellent. Ça sera pour nous dire voilà, on a tant d'embryons. Donc il y a quand même mon conjoint qui savait que ses propres, ses spermatozoïdes à lui. Hein. Mm-hmm. Donc là, c'est prêt, c'est congelé. Ils vont décongeler et ils vont faire ils feront un embryon. Et là, en fonction de ce qu'il y a, ils nous diront voilà, il y a tant d'embryons. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais ils vous préviennent pas avant de féconder tout ça? Ils vous appellent qu'une fois qu'ils ont... Oh la vache.
Ah ouais. Bon, on sait qu'on est maintenant, on sait qu'on est sur en haut de la liste.
D'accord.
On sait qu'on est dans les prochains passés. Mais on sait pas quel mois ils vont nous appeler.
Ouais, d'accord.
Tout dépend des donneuses, parce qu'après, des donneuses, il y en a pas beaucoup.
Ouais, ça c'est un peu le problème en France. D'accord.
Donc voilà, il y a des mois où il peut avoir 3 donneuses et des mois où il peut ne pas en avoir. Donc d'un mois sur l'autre, ça peut varier. Donc du coup, on attend l'appel.
Ok. Bon, très bien. Et alors, pour confirmer juste que j'ai bien compris, donc les dons ne peuvent pas être dirigés vers une personne, on est d'accord. Et même si, voilà, tu peux pas dire, bah voilà, mon ami, ma sœur, ma belle-sœur veut me donner. Ça se fait juste pas comme ça en France, quoi.
Non, c'est impossible. Il faut que ça reste, c'est non rémunéré, c'est anonyme. Ça reste anonyme. On peut pas donner à quelqu'un. Et puis moi, je trouve que c'est, enfin, moi, j'aurais pas voulu, par contre, avoir reçu de quelqu'un que je connaissais.
Que tu connais.
Ce que j'aurais voulu, mais c'est pas possible, hein. C'est peut-être de pouvoir lui écrire un courrier sans dire qui j'étais, mais remercier la personne qui va faire la démarche pour m'aider. Et pourquoi pas avoir aussi un courrier de sa part en expliquant pourquoi elle le fait. Et ça, voilà. Mais moi, moi, j'ai besoin que ça reste anonyme.
D'accord.
Parce que la seule chose que je vais pouvoir voir pour un enfant, c'est toujours la ressemblance. Et là, pour moi, voilà, c'est inévitable. On peut, voilà. Et du coup, de rencontrer ou de savoir qui est la personne, j'aurais peur. Et encore, hein, j'ai pas encore d'enfant, donc je sais pas, mais j'aurais peut-être peur de toujours voir l'enfant.
Ouais.
Voilà, de voir la personne que j'ai rencontrée ou dans voilà, de projeter sur l'enfant. Donc moi, je préfère que ça reste anonyme, de pas, ouais. Voilà. Je verrai si ça se trouve que les traits de son papa. Et puis, si ça se trouve, il aura mes mimiques, parce qu'il y a aussi beaucoup d'études.
Génétiques, même.
Voilà, l'épigénétique, oui, c'est exactement ça. Et puis, voilà, les mimétismes, tout ça. Donc, moi, mais c'est vrai que je trouve dommage qu'on puisse pas, voilà, laisser un courrier pour remercier les personnes qui font ça, parce que c'est encore tellement peu répandu en France. Les listes d'attente sont très longues dans certaines villes. Voilà, un an, on peut considérer que c'est pas long quand, par rapport à d'autres parcours de PMA qui peuvent durer des années et des années.
Mmh.
Je trouve que ce qui est vraiment dommage, c'est le peu de communication.
Sur le don d'ovocytes
sur le don d'ovocytes. Ouais. En général.
Ouais.
C'est, moi, que ce soit pour inciter des filles à le faire, pour expliquer ce que c'est, pour expliquer à des femmes qui auraient envie de le faire que ça va aider une autre femme qui peut pas avoir d'enfant. Et aussi parce qu'on n'en parle pas assez, parce que des filles comme moi, il y en aura de plus en plus. Il y a pas d'information, donc on apprend quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que ben des gens ne parlent pas du don d'ovocytes, donc quand on apprend qu'il faut qu'on passe par là, ben on sait pas ce que c'est.
Ouais.
Et moi, les émissions que j'ai regardées avec des filles qui ont raconté leur histoire, qui expliquent qu'elles sont passées par là, qu'elles ont eu un enfant et tout, moi, ça m'a aidée. Parce que ben déjà, ça met des explications sur les questions qu'on se pose.
Bien sûr.
Ça met aussi un visage sur des personnes. Et on se dit, mais je suis pas la seule. Et je suis pas bizarre. Je suis pas...
Bien sûr.
Voilà. C'est parce que des fois on parle du don d'ovocytes, on entend voilà des femmes de 50 ans, 70 ans qui voulaient des enfants, qui sont allées à l'étranger, mais c'est pas, enfin des fois c'est très caricaturé, c'est voilà, alors qu'en fait la plupart des filles qui font ces démarches là, bah c'est des filles comme moi qui ont 30 des fois moins hein, mais voilà, qui ont une trentaine d'années, qui ont pas d'enfants, qui peuvent pas en avoir et qui c'est la seule solution. Et et voilà, d'un côté nous on est perdu parce que on a l'impression d'être seul au monde à avoir ce problème. Donc c'est bien quand on peut avoir des émissions, quand on en parle. Il y a aussi les maternelles qui c'est super bien parce que elles en parlent, il y a des témoignages et c'est rassurant, voilà. Et puis d'un autre côté, voilà, surtout d'inciter les femmes qui ont envie à le faire. Et
en fait, c'est ça, voilà, c'est savoir qu'il y a un besoin. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. On parle du don d'organes, mais c'est à peu près tout. Hein.
Oui.
Non, c'est...
Oui. C'est le don du sang.
Oui,
du sang, don de moelle osseuse, don d'organes.
Oui. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que le
don d'organes... C'est tabou en France.
J'en ai entendu parler pour la première fois. C'est un épisode de Bliss Stories, le podcast.
Oui.
Il y a quelques mois où il y a eu tout un truc là-dessus, et effectivement j'étais je savais pas, et justement d'ailleurs dans quelques semaines on a un épisode qui va sortir sur une donneuse de Wossi qui va nous raconter son parcours. Bon,
ouais. Écoute, voilà, mais pour revenir du coup sur le fameux podcast de Bliss, c'est mon ami médecin qui m'a envoyé du coup le lien, parce que j'avais jamais écouté de podcast avant qu'elle me l'envoie, je ne connaissais pas.
Ouais.
Et c'est la première fois que j'ai entendu un témoignage qui se rapprochait aussi autant du mien.
Ouais.
Et c'est ça aide tellement en fait.
Ah bah,
d'entendre de elle a, enfin voilà, d'avoir des mots sur ce qu'on peut ressentir, on se dit bah oui, en fait c'est exactement ça. Elle avait une façon d'expliquer ce qui lui est arrivé, et je me suis reconnue dans pratiquement tout ce qu'elle a dit. Et puis bon, après elle a eu la chance d'avoir deux enfants, et c'est rassurant parce que du coup on se dit voilà, si elle est arrivée, c'est que moi aussi je peux y arriver. Et puis qu'il n'y a pas moi qui me suis effondrée, c'est normal. Voilà,
c'est ça, aussi,
c'est bien de témoigner, quoi, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile et qui se retrouvent à regarder sur Doctissimo des explications qui sont, qui sont froides, qui sont, voilà.
C'est toujours les pires cas sur Doctissimo.
Ouais. Oui, puis c'est très succinct.
Ouais.
Donc voilà, moi, si à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ou plus tard, qui écoute et qui, moi, la seule chose que je peux lui dire, c'est s'il y a des solutions, il faut accepter, voilà, c'est difficile dès le début, tout le monde, pour tout le monde, c'est difficile, mais au final, on ressort la tête de l'eau et il y a des solutions et voilà. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, on lit des trucs, on se dit, mais c'est pas, moi, je peux pas faire ça, c'est pas normal, c'est pas naturel, enfin, voilà, c'est au début, c'est vrai qu'on se dit ce genre de choses et au final,
Ouais,
faut arriver à prendre le positif là-dedans.
Ouais,
et c'est
sûr.
Ce qui est plus dur. Voilà. Et puis c'est pas avec des descriptions sur Doctissimo qu'on peut y arriver. C'est qu'avec des filles qui sont passées par là, des témoignages qui finissent
ouais,
bien.
Des témoignages authentiques.
Qu'on y arrive. Ouais.
Des vraies histoires de vie, quoi. Non, c'est clair.
Donc c'est important d'en parler parce qu'il y en a pas beaucoup, il y en a très très peu.
Ouais.
Donc voilà.
Non, mais écoute, t'as bien raison. Laura, si t'avais un conseil à donner à la Laura d'il y a 2 ans, quand tu t'es lancée dans tout ça, ce serait quoi?
Bah déjà, si j'avais un conseil à la Laura qui avait 25 ans, ou 20, 25 ans, je lui dirais, va congeler tes ovocytes, va faire un don, parce que ça, on le sait pas aussi. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Mais des filles qui font le don, ont la possibilité gratuitement de faire congeler ses propres ovocytes.
Ah, d'accord. Ah, tu veux bon savoir.
Ça, on le sait pas. En France, on ne peut pas faire congeler ses ovocytes gratuitement, sauf si on fait un don.
Ah, d'accord.
Donc après, il faut avoir aussi envie de faire un don. Mais ouais, si j'avais un conseil à la Laura, il y a 10 ans, je lui dirais, va faire un don pour aider les femmes et garde des ovocytes pour toi. Ça, oui, ça, voilà, c'est. Et si j'avais un conseil à la Laura d'il y a 2 ans, change rien. avance. C'est ça. Voilà, continue à avancer. Parce que du coup, c'est en avançant qu'on est le plus proche de son but et puis rester solide au niveau du couple. Ça, on n'en parle pas aussi beaucoup, mais
ouais.
Faut rester solide.
C'était dur.
Ouais, bah oui, parce que il y a forcément la personne à qui ça touche, que ce soit l'homme ou la femme, on s'en culpabilise à fond. C'est très dur. On se dit que c'est notre faute, puis après il y a pas que la culpabilité, hein, il y a la colère, la haine, pourquoi moi, c'est tellement de sentiments en même temps. Il faut que la personne qui vit avec nous, faut qu'elle arrive à gérer, parce qu'elle est pas, dans notre tête, elle peut pas tout comprendre, et c'est pour ça qu'il faut que le couple dans les deux sens, faut comprendre que la personne en face, elle peut pas ressentir tout ce que nous on ressent, et à l'inverse, la personne, il faut qu'elle comprenne que c'est très difficile pour la personne qui doit accepter. Donc ouais, il faut être très très solide au niveau du couple, faut en parler, faut soutenir, quoi.
Ouais.
Au moins les premiers mois, parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, parce que, et puis, faut pas que les deux sombrent, hein, parce que, sinon, il y a plus personne pour remonter l'autre.
Ouais.
Donc,
vous êtes fait aider un petit peu, ou vous avez gardé
par
ça pour
un soutien? Lui, non.
Ouais.
Bah, lui, il considère que, de toute façon, il n'a pas besoin.
D'accord.
Pour lui, ça va, voilà. Pour lui, on va y arriver, et ça changera rien, quand on aura un enfant, ça changera rien pour lui. Après, moi, j'ai fait un peu de J'ai vu une sophrologue, j'ai vu une magnétiseuse, voilà. Mais après, de toute façon, on a un suivi obligatoire hein, dans le don. On a un rendez-vous obligatoire avec une psychologue qu'on a vue.
D'accord.
Mais sinon, non, c'est plus les copines, la famille. Mm-hmm. On fait que qu'on a avancé. Après, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Puis finalement, plus les mois passent, plus on se rapproche du but et plus on est positif. Et puis, on se dit, voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est bientôt. On va faire en sorte que ça marche. On va y arriver. Après, voilà, on verra comment ça se passe. Si ça se passe pas bien. Mais dans tous les cas, pour l'instant, faut être positif. Faut dire, ça va marcher.
Ouais.
Et du coup, forcément, on sort la tête de l'eau. Sinon, on peut pas avancer. Et puis, on peut pas prendre la décision de faire ces démarches-là.
Ouais.
Donc voilà, c'est comme tout, c'est le temps qui fait les choses. Enfin, pour moi, c'était le temps qui a fait les choses.
Ouais. Bon, mais écoute, c'est des super conseils, tout ça. Merci beaucoup, Laura.
Je sais pas si ça va aider quelqu'un,
mais si, c'est bien sûr.
Et il faut faire aussi en fonction de son ressenti. Hein.
Bien sûr.
Enfin, voilà, s'il y a quelqu'un si on ressent le besoin de parler, il faut aller parler à quelqu'un. Si on ressent le besoin de, enfin voilà, faut s'écouter. Mm-hmm. Tout le monde réagit pas pareil, il faut s'écouter.
Ouais. Écoute, Laura, je te dis un immense merci d'avoir partagé ton histoire. Comme tu le dis, je pense que témoigner, raconter son histoire, raconter comment est-ce qu'on vit ça, les questions qu'on se pose, c'est un peu tout le but du podcast, quoi. C'est qu'on se sente plus seul, ouais, en fait, dans ces moments qui sont quand même vachement durs et qui peuvent être très longs. Donc un immense merci. Je sais que ça aidera beaucoup. Je te souhaite que votre don vous soit attribué bientôt. Tiens-nous au courant de la suite. Je serai ravie de partager les bonnes nouvelles qui suivront. Et en attendant, écoute, prends de toi.
Et merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir laissé la parole. Et puis j'espère que voilà. J'espère que ça va aider d'autres personnes et puis ou alors que ça puisse inciter des personnes aussi à faire
Un don.
À faire le don.
Ouais.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de filles qui attendent encore et
ouais.
Et ça voilà. Le seul moyen de les aider c'est de faire un don.
Ouais.
En tout cas, merci aussi à toi de laisser la possibilité de d'en parler. Laisser la parole c'est super bien, puis il y a pas tant de plateformes qui le font, donc voilà, c'est top.
Plaisir. Merci beaucoup, Laura. Je te souhaite une très bonne fin de soirée ou plutôt un bon début de nuit. Et je te dis à très bientôt.
À bientôt. Bonne soirée.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Et voilà, aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de la saison, le 26e épisode. Je tiens bien entendu à remercier mes 26 invités, ces 26 histoires aussi uniques qu'informatives. J'espère qu'elles vous ont apporté du soutien, qu'elles vous ont apporté autant d'informations que vous en aviez besoin. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres besoins, d'autres envies pour la saison prochaine, à nous écrire directement sur Instagram. Je vous dis un immense merci à vous qui avez écouté cet épisode dans son intégralité, mais aussi qui avez écouté tous les épisodes du podcast. Votre soutien et votre fidélité nous portent au quotidien. Vous savez, on fait un podcast, c'est parce qu'on est convaincu de la mission qui est la nôtre. On est convaincu qu'il est important de libérer la parole sur les questions de fertilité. On est convaincu que nous avons besoin, nous, PEMET, FIVET, ou toute personne qui se pose des questions sur sa fertilité, qu'on a besoin d'avoir accès à des témoignages fiables, à des témoignages compréhensibles et qui nous partagent des informations avec ou non des happy endings. Et finalement, on fait ça en plus de nos boulots, en plus de notre quotidien. Alors, votre soutien, c'est notre seul salaire. Donc, je vous dis vraiment un immense merci au nom de toute l'équipe de « Alors, c'est pour bientôt » le podcast. Je vous le disais, c'est donc le dernier épisode de la saison. Je suis un peu émue et je suis vraiment très heureuse de cette belle saison qu'on a passée tous ensemble. Restez connectés pendant l'été, on a quelques surprises en cours de préparation pour vous. Si vous souhaitez réécouter les épisodes, bien entendu, tout reste disponible et sur le site du podcast. Alors c'est pour bientôt podcast.com ou encore dans tous les liens qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux, sur notamment Instagram et Facebook, c'est @alors c'est pour bientôt podcast. N'hésitez pas donc à nous suivre en tout cas sur Instagram, c'est là que vous aurez de nos nouvelles le plus souvent pendant l'été. Et puis je vous souhaite de très bonnes vacances, j'espère que vous en avez, un bel été et je vous retrouve en septembre. À très bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.